Bonjour à ceux que j'ai pas encore salués ce matin, bienvenue à tous. On a déjà pas mal évoqué de choses, notamment l'idée de souvenir. La définition du souvenir, deux sens principalement, dans le dictionnaire. Avoir de nouveau présent à l'esprit quelque chose qui appartient à une expérience passée. Je m'en souviens. Dans ce sens-là, pour nous en général, si on parle des choses lointaines ou passées, on a tendance à se rappeler des très belles choses, les bons souvenirs, la réussite à un examen, un mariage, de belles vacances en famille, une naissance, et les très mauvaises choses, les mauvais souvenirs, un accident, un échec, la perte d'un proche. Le deuxième sens, c'est ne pas oublier, penser à. Souvenez-vous, vos promesses par exemple, que vous me l'avez promis. Dans ce domaine-là, par exemple, ne pas oublier de faire quelque chose, ou d'acheter quelque chose, d'appeler quelqu'un, de répondre à une promesse faite, etc. Alors soit on a vraiment une excellente mémoire, ce qui n'est pas mon cas, soit pour ma part je note tout, je fais des listes, il y en a souvent pas mal, sur mon bureau, à la maison, au travail, des fois elles s'empilent malheureusement. Il me faut en tout cas quelque chose de visuel, de visible, d'écrit, pour que je n'oublie pas trop. Ou alors un rappel dans mon téléphone, super pratique. Mais ce matin, dans notre moment de partage autour de la parole, nous abordons aussi cet aspect du souvenir, dans ses deux sens d'ailleurs. Et je vous invite à prendre ce texte, très connu, souvent par cœur même, par beaucoup d'entre vous, que nous lisons et relisons à cette période. Et quand Josué avait donné le plan de prédication, je me suis dit, qu'est-ce qu'on peut bien dire sur Luc 2, verset 1 à 20, que tout le monde connaît tellement. Alors je vous invite à le prendre dans une version peut-être un peu moins courante, parole de vie, et ce sera affiché pour ceux qui veulent suivre aussi. À cette époque, l'empereur Auguste donne l'ordre de compter les habitants de tous les pays. C'est la première fois qu'on fait cela. À ce moment-là, Quirinius est gouverneur de Syrie. Tout le monde va se faire inscrire, chacun dans la ville de ses ancêtres. Joseph quitte donc la ville de Nazareth, en Galilée, pour aller en Judée, à Bethléem. C'est la ville du roi David. En effet, David est l'ancêtre de Joseph. Joseph va se faire inscrire avec Marie, sa femme, qui attend un enfant. Et pendant qu'ils sont à Bethléem, le moment arrive où Marie doit accoucher. Elle met au monde un fils, son premier enfant. Elle l'enveloppe dans une couverture et elle le couche dans une mangeoire. En effet, il n'y a pas de place pour eux dans la salle où logent les gens de passage. Dans la même région, il y a des bergers. Ils vivent dans les champs et pendant la nuit, ils gardent leurs troupeaux. Un ange du Seigneur se présente devant eux. La gloire du Seigneur les enveloppe de lumière. Alors ils ont très peur. L'ange leur dit, n'ayez pas peur. Oui, je viens vous annoncer une bonne nouvelle qui sera une grande joie pour tout votre peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, un sauveur est né pour vous. C'est le Christ, le Seigneur. Voici comment vous allez le reconnaître. Vous trouverez un petit enfant, un enfant enveloppé dans une couverture et couché dans une mangeoire. Tout à coup, il y a avec l'ange une troupe nombreuse qui vient du ciel. Ils chantent la louange de Dieu, gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre à ceux que Dieu aime. Ensuite, les anges quittent les bergers et retournent au ciel. Alors les bergers se disent entre eux, allons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur Dieu nous a fait connaître. Ils partent vite. Et ils trouvent Marie, Joseph et le petit enfant couchés dans la mangeoire. Tous ceux qui entendent les bergers sont étonnés de leurs paroles. Marie retient tout ce qui s'est passé. Elle réfléchit à cela dans son cœur. Ensuite, les bergers repartent. Ils rendent gloire à Dieu et chantent sa louange pour tout ce qu'ils ont vu et entendu. En effet, tout s'est passé comme l'ange l'avait annoncé. Le souvenir. Premier point, le souvenir des promesses divines. Ce texte est sur de nombreux points précis, et cela a son importance, car tous ces détails devaient faire penser aux choses promises par Dieu et qui se trouvaient dans la Torah, l'Ancien Testament. La naissance de Jésus, comme décrite, comme transmise par les différentes personnes, bergers, Marie, Joseph, les mages, devait comme allumer un voyant rouge d'alerte, comme sur le tableau de bord d'une voiture. Attention, là, il se passe quelque chose dont vous devriez avoir le souvenir. C'est écrit quelque part. C'est écrit sur la liste des choses à pas oublier. Il y a une alerte qui sonne. Prenons quelques textes, et Paul nous en a déjà lu un ce matin, qui aurait dû éveiller le souvenir. Dans Ésaïe, bien sûr, Ésaïe 7, verset 14. « C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la Vierge deviendra enceinte, et elle enfantera un fils, et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. » Dieu avec nous. Ésaïe 9, verset 5 et 6, qu'on a déjà lu. « Car un enfant est né pour nous, un fils nous est donné, et il exercera l'autorité royale. Il sera appelé merveilleux conseiller, Dieu fort, Père à jamais, Prince de la paix. » Il étendra sa souveraineté et il instaurera la paix qui durera toujours au trône de David et à tout son royaume. Sa royauté sera solidement fondée sur le droit et sur la justice, dès à présent et pour l'éternité. Voilà ce que fera le Seigneur des armées célestes dans son ardent amour. Michée 5, verset 1. Et toi, Bethléem, Éphrata, bien que tu sois petite parmi les villes de Juda, de toi il sortira pour moi celui qui règnera sur Israël. Son origine remonte au temps passé, aux jours anciens. Oui, Dieu n'oublie pas. Dieu n'oublie pas sa promesse et il l'accomplit au moment de la naissance de Jésus. Il prend bien garde que toutes ces choses écrites soient respectées et qu'elles témoignent de l'accomplissement de quelque chose prévu depuis longtemps. Nous avons ici pris quelques textes qui parlent spécifiquement de la naissance de Jésus. Mais si nous considérons tous les textes qui évoquent Jésus dans l'Ancien Testament, il nous faudrait, je pense, quelques heures ensemble pour tous les lire. Voilà ce qui est important, c'est que ce moment-là, la venue de Jésus, sa naissance parmi les hommes, est le début de l'apogée du plan de Dieu pour nous les hommes. Il veut rétablir son royaume en nous permettant d'en faire partie. Qu'est-ce qu'il promet? Un sauveur et seigneur qui régnera sur Israël, sur son peuple. Comment sera ce seigneur? Il sera appelé merveilleux conseiller, Dieu fort, père à jamais, prince de la paix. Que fera-t-il? Il étendra sa souveraineté, il instaurera la paix qui durera toujours au trône de David et à tout son royaume. La paix pour toujours. Un royaume fondé solidement sur le droit et la justice pour l'éternité. Waouh! Mais honnêtement, qui ne voudrait pas un tel pays, un tel royaume? Et il y a plus. Car juste avant la naissance de Jésus, Dieu va encore une fois rappeler le souvenir de ses promesses à deux personnes bien précises. La première, on trouve ce texte dans Matthieu 1, 18 à 25. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, était fiancée à Joseph. Or, avant qu'ils aient habité ensemble, elle se trouva enceinte par l'action du Saint-Esprit. Joseph, son fiancé, qui était un homme juste et qui ne voulait pas l'exposer au déshonneur, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, un ange du Seigneur lui apparut dans un rêve et lui dit « Joseph, descendant de David, n'aie pas peur de prendre Marie pour femme, car l'enfant qu'elle porte vient du Saint-Esprit. » Elle mettra au monde un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. La Vierge sera enceinte, elle mettra au monde un fils et on l'appellera Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Ésaïe 7, verset 14. À son réveil, Joseph fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné et il prit sa femme chez lui. Mais il n'eut pas de relation conjugale avec elle jusqu'à ce qu'elle ait mis au monde un fils auquel il donna le nom de Jésus. Joseph, un autre témoin, vu juste avant la naissance de Jésus. pour se rappeler de ses promesses. Dieu, au travers de l'ange, va encore une fois confirmer que cet enfant qui va venir est bien l'enfant de la promesse, l'enfant qui sauvera son peuple du péché. Il y a dans le message de l'ange, au verset 20, toute l'importance de la filiation de Jésus. Il lui dit « Joseph, descendant de David ». Bien sûr qu'il devait le savoir, mais rappelle-toi, ça a eu son importance. Selon la tradition juive, effectivement, cet enfant est légalement un fils de David, car son père légal, c'est bien Joseph, de la famille de David. Donc Jésus est pleinement homme, descendant de la famille de David, comme l'annonçaient les Écritures. Un peu plus loin, l'ange dit « car l'enfant qu'elle porte vient du Saint-Esprit ». Donc Jésus est aussi pleinement fils de Dieu, car engendré par le Saint-Esprit. Et il continue l'ange, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Lui, pour sauver des péchés, Jésus devait être pleinement homme, comme nous, afin de pouvoir prendre notre place à la croix plus tard. Mais il devait aussi être pleinement Dieu, afin d'être sans défaut, avoir vécu une vie sans péché, pour que nous puissions nous aussi être considérés aujourd'hui comme blancs sans tache devant Dieu si on accepte son œuvre dans notre cœur. C'est incroyable comment cette naissance d'un tout petit bébé à Noël a une importance capitale pour nous, les hommes et toute l'humanité. La deuxième personne à qui Dieu va se manifester avant la naissance de Jésus, c'est... Vous savez ? C'est le texte juste avant ce qu'on vient de lire, dans Luc 1, 26-38. Non ? Juste avant, Marie, bien sûr. Le sixième mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, chez une vierge fiancée à un homme de la famille de David, appelé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie parmi les femmes. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit « N'aie pas peur, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu seras enceinte. Tu mettras au monde un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son ancêtre. » Ding, 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 Ésaïe 9, 5, 6. « Il règnera sur la famille de Jacob éternellement. Son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il, puisque je n'ai pas de relation avec un homme ?» L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra sera appelé fils de Dieu. » Voici qu'Élisabeth, ta parente, est elle aussi devenue enceinte d'un fils dans sa vieillesse, celle que l'on appelait la stérile et dans son sixième mois. En effet, rien n'est impossible à Dieu. Et Marie dit, « Je suis la servante du Seigneur. » Que ta parole s'accomplisse pour moi. Et l'ange la quitta. Pour Marie, on est dans la surprise d'une femme à qui on annonce qu'elle va entrer de manière incroyable et très concrète dans le plan de Dieu. Elle est surprise, troublée. Elle se questionne sur comment est-ce possible. Mais sa réaction finale, incroyable. Je suis la servante du Seigneur. Que ta parole s'accomplisse pour moi. Elle accepte le plan de Dieu. De lui donner un fils qui sera fils du Très-Haut, pleinement Dieu. Joseph et Marie reconnaissent finalement le plan de Dieu, l'acceptent et lui obéissent. Petite parenthèse ici, c'est aussi un merveilleux témoignage d'écoute, de discernement du plan de Dieu, même s'ils ne le comprennent pas forcément tout de suite. Mais ils y obéissent. Est-ce que nous aussi, nous écoutons, discernons le plan de Dieu pour nous? Et obéissons. Fin de la parenthèse. Pour finir cette première partie, est-ce que moi aussi, je reconnais dans ces événements de la venue de Jésus l'accomplissement des promesses divines pour les hommes? Ce n'est pas anodin. Ce n'est pas juste une belle histoire de Noël. Est-ce que je pense à ces promesses faites dans Ésaïe, Michée, à Joseph, à Marie, à d'autres encore? La venue de celui qui par son œuvre libère son peuple de l'esclavage du péché. Deuxième point, le souvenir de la naissance de Jésus. On est bien sûr dans l'accomplissement de promesses passées et de certaines à venir. Mais il y a aussi le moment présent. Pour Joseph et Marie, la réalité du moment, c'est ce recensement obligatoire, ce manque de place dans la pièce pour les gens de passage, cet accouchement qui arrive et la nécessité de trouver un endroit, même insolite, pour installer sa femme et son enfant. Un accouchement, même s'il n'y a pas de détails, c'était pas une chose aisée comme maintenant. Pas de sage-femme, pas d'appareil de toutes sortes, pas de moyen de soulagement quelconque, pas de péridurale. Souvent un grand risque pour les femmes et parfois des conséquences dramatiques. Mais Dieu, malgré toutes ces conditions difficiles pour Marie et Joseph, permet que tout ceci se passe bien, ou du moins c'est pas écrit que ça s'est passé mal. Et Jésus se retrouve emmailloté dans une crèche, au chaud dans une étable. Aussi insignifiant que cela puisse sembler, on assiste à quelque chose d'exceptionnel, d'incroyable. Et le ciel ne peut pas rester sans rien dire. Alors c'est auprès de bergers que la gloire du Seigneur resplendit, jusqu'à leur faire peur. Mais ce n'est pas de la crainte qui amène cet ange, mais une grande joie, une grande nouvelle à partager. Au moment où l'ange annonce la naissance d'un sauveur qui est le Christ le Seigneur, que se passe-t-il? Une troupe nombreuse qui vient du ciel. Ils chantent la louange de Dieu, gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et sur la terre, paix à ceux que Dieu aime. Les bergers vont voir de leurs propres yeux ce que l'ange leur annonce. Et ils trouvent rien, c'était n'importe quoi. Non, pas du tout. Bien sûr, là encore une fois, et c'est rappelé dans le texte, nous affirme que tout était conforme à ce qui leur avait été annoncé. Et ils s'en retournèrent glorifiant et louant Dieu. Et dans notre texte se cache aussi, comme souvent, une petite perle, une petite phrase, une situation particulière, pour quelqu'un en particulier. Le verset 19. Marie retient tout ce qui s'est passé. Elle réfléchit à cela dans son cœur. D'autres versions encore que vous connaissez peut-être. Marie gardait le souvenir de tout cela et le méditait dans son cœur. Ou encore Marie, elle, conservait le souvenir de toutes ses paroles et y repensait souvent. Alors bien entendu qu'on ne parle pas ici de son accouchement. Les mamans ici savent très bien qu'on n'oublie pas la naissance de ses enfants, surtout pas le premier. De quoi Marie désire tellement garder le souvenir dans son cœur? De ce que venaient de leur raconter les bergers, juste avant. Qu'est-ce qu'il leur raconte? Ce que l'ange leur dit, oui, je viens vous annoncer une bonne nouvelle, qui sera une grande joie pour vous, pour tout votre peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, un sauveur est né pour vous. C'est le Christ, le Seigneur. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et sur la terre, paix à ceux que Dieu aime. Marie garde précieusement dans son cœur, non pas la naissance en tant que telle, mais de qui elle vient d'accoucher. Ce bébé minuscule, maintenant, est aussi et déjà, pour elle, un sauveur. Son sauveur, le Christ, son Seigneur. Son cœur devait chanter à chaque fois qu'elle y pensait, comme la multitude d'anges, gloire à Dieu au plus haut des cieux. Alors il y a le souvenir de la venue de ce sauveur, la venue de celui qui va réconcilier les hommes avec Dieu. Et ceci de manière globale pour tous les hommes, l'espérance de salut pour tous ceux qui l'acceptent. Mais on a aussi comme un projecteur ce focus sur une relation individuelle, particulière, d'un à un, de ce que représente la venue de Jésus pour chacun, individuellement, comme Marie dans notre texte. Et c'est tellement important. Oui, bien sûr, il y a le plan global pour toute l'humanité. Mais il y a aussi ce que Dieu a fait pour toi, ce que cela représente pour toi. Un focus sur une relation individuelle. Ce que Dieu veut recréer, c'est une relation individuelle avec chacun. Restaurer l'intimité d'une relation avec chacun individuellement. Que cela se traduise, se manifeste individuellement en chacun de nous, dans notre cœur à chacun. Il veut aussi rentrer dans le cœur et le souvenir de chacun, afin que la joie, la louange, habite notre cœur et nos vies, comme Marie, comme les bergers, qui partent joyeux. Alors est-ce que tu ne peux pas encore, comme Marie, te rappeler que Jésus est ton Sauveur et Seigneur, car ce n'est pas une réalité pour toi? Sache qu'aujourd'hui encore, tu peux laisser ce petit homme, ce grand Sauveur, entrer dans ta vie, en reconnaissant en lui seul, celui qui peut te sauver de la révolte qui habite en toi par le péché. Et alors tu pourras aussi être dans la joie, glorifier Dieu pour Jésus le Sauveur. Est-ce que toi qui as accepté Jésus dans ta vie, qui gardes encore, tu gardes encore précieusement dans ton cœur tout ce que cela représente? Est-ce que cela provoque toujours encore en toi, comme au premier jour, elle nous en parlait Gabriel, du première génération, la joie d'être enfant de Dieu? Est-ce que cela te pousse, comme Marie, comme les bergers, à glorifier, à louer Dieu, à le partager? Est-ce que ça se voit? Alors que la venue de Jésus, accomplissement d'un plan incroyable de Dieu pour les hommes, puisse te toucher d'une manière nouvelle, en changeant ta vie, si tu ne l'as pas encore accepté, en provoquant chez toi, son enfant, la joie, la louange, la reconnaissance, lorsque tu t'en souviens tous les jours, pas seulement à Noël. Et Jésus nous donnera plus tard d'ailleurs encore un autre moyen de nous rappeler du plan d'amour incroyable dans le repas du Seigneur que nous allons prendre juste après. Alors souvenons-nous de cette très bonne chose, de cette très grande nouvelle, de la venue sur cette terre il y a plus de 2000 ans, d'un tout petit bébé, dans une crèche, mais qui en même temps est aussi le Christ, le Sauveur, le Seigneur de tous ceux qui le reconnaissent. Amen.